Bien, ben voilà ce que peut inspirer à la philosophie les exposés que l'on vient d'entendre et qui sont certainement plus riches que ce que je vais pouvoir en tirer, mais vous en retirerez à nouveau, parce que c'est ça le partage du savoir interactif, d'autres considérations. Alors, l'exposé de Dominique Kerouadan a mis en lumière une signification que je dirais intensive et substantielle de la démocratie, en faisant de la santé une problématique géopolitique de rang planétaire. Et c'est tout simplement d'abord un fait d'observation. Nous sommes tous concernés par la circulation transfrontalière des maladies sur le plan physique, et la valeur de l'existence nous est suggérée sur le plan moral de plus en plus par la capacité de vivre bien. Le cas de l'Afrique nous enseigne que la démocratie doit être aussi une réalité salutaire au titre de l'équité face à la souffrance. Il faut donc que le savoir ne soit pas seulement un instrument aux mains de quelques spécialistes, mais, comme vous l'avez dit, un acteur politique, un conseiller politique, une raison de démocratiser pour tous la chance de vivre bien. Éthique médicale et éthique démocratique vont de pair quand il s'agit de faire du savoir un acteur politique légitime dans les pays du Sud. Et cela conduit à souligner le deuxième apport de la contribution de Dominique Kerouédan. Pour que le savoir ait réellement un rôle politique et démocratique, il faut qu'il soit un facteur d'auto-émancipation pour les pays du Sud. Cela signifie que la science n'est pas une possession privée, ni un moyen de pouvoir. Et en préférant le mot « savoir » au mot « science », Dominique Kerouédan montre la condition vraiment démocratique de l'usage de la connaissance, former des acteurs et non pas des subordonnés, partager des compétences et non pas les confisquer. Elle retrouve ainsi la leçon de Gandhi. Il n'y a pas d'autre émancipation que l'auto-émancipation. Et Gandhi affirmait ainsi que la croyance dans la supériorité du colonisateur était ce qui maintient le colonisé dans la subordination. Et si l'on passe au savoir médical pour transposer cette formule de Gandhi, eh bien on dira que la croyance à la supériorité de la science de l'autre, maintient le pays pauvre dans l'infériorité. Ainsi, la vraie démocratie, c'est de savoir que savoir est notre œuvre propre et que c'est ce savoir-là qui nous libère. Dominique Kerouédan aborde ainsi un problème redoutable relativement à la démocratie contemporaine. À quel titre un savoir peut-il cautionner une décision politique? Au nom de la justice, on est tenté de dire que l'expert doit voir son avis devenir un commandement politique. Mais c'est risquer la chute dans l'autoritarisme, voire dans le totalitarisme. Comment le savoir scientifique médical peut-il conseiller le pouvoir démocratique? Vaste problème. Certains sociologues estiment que la science doit aujourd'hui savoir convaincre par l'argumentation et par la discussion. Et c'est ainsi que votre conférence découvre le statut actuel démocratique de la science. Elle doit savoir convaincre. Et c'est ce que j'appellerais, en prenant votre mot que j'avais utilisé dans un autre contexte, de l'altérité rationnelle et de l'altruisme rationnel par l'argumentation. Parce que l'argumentation, c'est partager l'intelligence ensemble. En effet, convaincre, c'est pour la science une situation nouvelle, tout simplement parce que la science aujourd'hui est devenue un facteur économique et par conséquent qu'elle suppose des choix budgétaires. Une décision politique doit sacrifier certains postes et privilégier d'autres postes. Donc il faut convaincre. Cela veut dire rationaliser les choix par l'argumentation. Et cela implique évidemment de cultiver les citoyens qui peuvent alors construire une opinion instruite qui n'est pas simplement émotionnelle ou réactive. Cette manière de faire peut-elle, à votre avis, Dominique, contribuer à respecter la diversité particulière des besoins d'un savoir médicaux dans les pays du Sud? J'en arrive à la contribution de M. Akindes. M. Akindes prend acte des menaces qui pèsent sur la démocratie de façon générale. Et il analyse les effets de cette menace en Afrique. Crise de la représentation, recul du politique au profit de l'économique, technocratisation de la pratique du pouvoir, etc. Vous l'avez effectivement bien vu. Mais surtout, et c'est assez remarquable, il propose une version courageuse et je crois assez forte du mal politique africain face à la démocratisation des esprits et des institutions. Les points forts que j'invite à retenir sont, premier point, le fait que la démocratie est perçue comme une modernité importée, et cela fait nécessairement obstacle à une adhésion forte et spontanée. Deuxième point que vous avez souligné, la manière dont le pouvoir d'État a été personnalisé, vous dites anthropologisé, au point de réduire l'intérêt général à l'intérêt de la caste ou de la famille au pouvoir. Troisième point, l'importance du facteur culturel dans l'institutionnalisation de la démocratie. Et c'est effectivement un point très important. La démocratie, c'est ce que vous inspirez, M. Akindes, n'est pas seulement un régime ni une forme de gouvernement, c'est une culture, une volonté, une manière de se rapporter solidairement à l'avenir. Autre point, le défi que vous avez souligné que représente la réussite d'une démocratie pluraliste en contexte de violence interethnique. Comment vivre ensemble avec et malgré la violence? Vous soulignez l'apport des sciences humaines et du droit dans le travail d'inculturation démocratique. Et vous avez bien sûr raison. Mais il me semble que votre propos contient quelque chose de plus. Ce qui frappe l'auditeur, c'est le fait de ne pas tenir la démocratie pour une solution toute faite et prête à l'emploi. De ne pas en faire un exemple importé qu'il suffirait d'imiter. La culture démocratique doit venir des citoyens. Et il y a là une volonté de fondation africaine de la démocratie qui veut en faire une sorte de force qui vient de soi-même. Et vous avez totalement raison, je crois, sur ce point. La démocratie est une éthique plus qu'une technique. C'est une coque vide sans la solidarité démocratique, car alors elle est instrumentalisée, vous l'avez vu, par les lobbies ou accapareurs de tous bords. Et pour vous donner raison sur ce point, j'aimerais mettre en écho une formule d'un philosophe égyptien qui parle de la laïcité. Et il dit en substance que la laïcité est une liberté d'esprit qui ne vient pas de l'Occident, c'est lui faire trop d'honneur. Cela vient de tous les peuples qui ont envie d'être libres, dit-il. Et je trouve que c'est une formule assez belle. Par ailleurs, vos considérations touchent notre démocratie occidentale aussi face à ses propres contradictions et au cœur même du chemin qu'il est possible de donner à l'espérance démocratique. Et là-dessus, je prends les leçons pour moi maintenant. On repère très clairement dans votre propos, et on le vit ici aussi en Europe, une lutte intra-démocratique entre les tenants d'une démocratie conflictuelle d'une part, on va soutenir que la démocratie est une source perpétuelle de conflits, c'est très bien, ou au contraire, pour les tenants d'un autre bord, d'une démocratie pacifiée grâce à des pratiques dialogiques et représentatives. Et vous avez fort bien repéré que la perversion des modèles fait partie du jeu démocratique lui-même, la violence au lieu de la conflictualité, l'influence insidieuse au lieu du dialogue. Encore une leçon que je reprends, la démocratie est un idéal absolument légitime, mais qui peut être réduit à l'illusion s'il est sans contenu substantiel, si c'est un modèle purement abstrait, simplement juridique et formel. Et j'aimerais poser à M. Akindes une question qu'il jugera naïve, et il aura raison, mais je la pose quand même. Ne faudrait-il pas que la démocratie en Afrique, telle que vous la soutenez, soit aussi une question d'amour, si l'on ose dire. Autrement dit, dans un vocabulaire plus discret, une passion démocratique de solidarité pour l'avenir et pas seulement, effectivement, un modèle importé. Une démocratie aimée, pas simplement une démocratie pensée. L'exposé de M. Kourilski invite à jeter sur la démocratie un autre regard que le regard un peu conformiste, un peu usé et un peu fatigué que nous autres jetons sur la démocratie et qui se borne à en faire un régime favorable au bien-être individuel et à la sécurité individuelle. Vous mettez en valeur une dimension qui aujourd'hui est absolument indispensable. La participation des savoirs à une démocratie instruite et réfléchie, j'aurais presque envie de dire à une démocratie réflexive. Pour faire face à la pauvreté, le savoir ne doit pas être simplement synonyme de position dominante. Et c'est encore comme cela qu'on se le représentait le professeur ou le médecin il n'y a pas si longtemps. Il doit faire partie de l'action par la voie des échanges. Les savoirs concrets, les savoirs appliqués, les savoirs nés de pratiques contextualisées sont un accès à la réalité telle qu'elle est, complexe, mouvante et ingrate. Et en effet, le partage des savoirs doit maintenant être regardé, je crois, comme un authentique bien commun public, un bien commun qui dépasse les frontières nationales. Les savoirs, en effet, ne sont pas des abstractions, ce ne sont pas des théories pour théoriciens, ce sont des accès à la réalité elle-même, des manières de travailler avec et sur la réalité. Les savoirs qui sont équivalents à des métiers sont des actions sur le monde au titre de savoir-faire, de savoir composer avec la réalité. On est loin de la science formelle et distante qu'on apprenait, en tout cas dans ma génération, encore à l'école. On est dans le savoir qui peut se traduire dans des comportements appropriés et à ce moment-là, la connaissance devient une puissance d'agir. Et cette orientation me paraît confirmer la belle intuition d'Amartya Sen que m'a inspirée aussi votre exposé. Les droits de l'homme ne sont pas simplement de simples abstractions, ni de simples formalités juridiques. Il importe de voir naître en chacun la capacité, ce mot très beau de capacité, capacité de vouloir, capacité de faire, c'est-à-dire un pouvoir effectif d'agir plutôt qu'une simple possibilité évasive et abstraite d'être un sujet de droit en général. L'Occident ne peut se contenter vis-à-vis de l'Afrique d'un compassionnalisme culpabilisé comme elle l'a longtemps pratiqué. Et la prise en considération de savoirs régionaux et locaux, de savoirs tissés dans l'expérience, à même la vie collective, conduit à privilégier la capacité d'être et la capacité de faire plutôt qu'une entité fictive pourvue de droits abstraits. Cette orientation confirme d'ailleurs une dimension nouvelle de la vie démocratique, l'interactivité dans les échanges des savoirs. Et notre époque, nous le savons, fonde aujourd'hui le savoir sur l'échange des savoirs. C'est une nouvelle dynamique créée par Internet qui réorganise en profondeur les manières d'enseigner. Toutefois, la question qui peut se poser dans la défense que vous avez proposée du partage et de la diffusion des savoirs créés dans des contextes locaux et précis, eh bien, la question qui se pose est celle, bien sûr, de l'exploitation possible de ces savoir-faire, de ces savoir-être locaux et régionaux, de ces savoirs fondés sur l'ancienneté, sur la transmission. Une exploitation qui viendrait bien sûr des organismes qui les transforment en remèdes ou en médicaments sans passer par la logique des autorisations et des brevets. La tentation d'exploiter les savoirs nés de pratiques ancestrales n'est-elle pas plus forte que celle qui consiste à les respecter et à les intégrer dans la construction dont nous avons besoin d'une intelligence collective transcontinentale ? Merci. Thank you.